Vous écoutez, on lit pour vous.
Dédramatiser l'autisme, un texte de Gwendoline Le Bomain, paru le 3 avril 2025 dans L'Aurore boréale. Un souper-conférence sur l'autisme et l'anxiété, destiné aux familles et aux intervenants et intervenantes, a été animé par Valérie Jessica Laporte, diagnostiquée autiste à l'âge de 38 ans. Celle-ci a partagé son expérience, les défis liés aux troubles du spectre de l'autisme, TSA, et a proposé des conseils pour mieux gérer l'anxiété associée à ce trouble. Valérie Jessica Laporte exprime la honte que peuvent ressentir les personnes atteintes du TSA. Ça n'a pas de sens, ça freine le progrès, ça peut faire peur aux gens d'aller chercher un diagnostic. Parfois, les parents sont tellement horrifiés face à ces diagnostics-là, mais l'enfant va être le même que la veille. Les défis varient d'une personne autiste à l'autre. Si on reçoit le bon livre d'instruction pour le bon profil et le bon fonctionnement de la personne, ça va faciliter beaucoup de choses. Si on est juste terrorisé face à cette différence-là, ça va être plus dur d'aller prendre les outils, d'aller prendre l'information, d'aller au jour le jour pour essayer d'améliorer notre condition le plus possible. Valérie Jessica Laporte est très présente sur les réseaux sociaux. Depuis plusieurs années, elle donne des conférences dans lesquelles elle dédramatise le TSA, informe et outille le public. Je remets les choses en perspective. Parfois, on dirait qu'on s'en fait avec des choses qui n'ont pas vraiment d'importance. Est-ce que c'est si grave que quelqu'un fasse du flapping, agite les mains? Ça change quoi, au fait? Oui, ça va paraître que la personne est autiste. Mais ça l'aide à se gérer, à communiquer, à sortir ses émotions. Une fois qu'on le sait, on le dédramatise. On va plutôt se concentrer à travailler sur les vraies affaires, c'est-à-dire que la personne peut se réaliser, qu'elle puisse être heureuse, qu'elle puisse apprendre et atteindre son plein potentiel. Ça, ce sont de vrais objectifs. Des outils existent. Beaucoup de personnes atteintes du TSA ont de la difficulté avec les bruits, avec les sons, explique la conférencière. Pour cela, il existe de grosses coquilles, comme les coquilles de construction. Ces personnes peuvent également utiliser des bouchons de musiciens plus discrets. Ces bouchons vont prioriser le son qui est devant nous. Ils vont prioriser la voix et garder la qualité de la voix, précise Madame Laporte. Il existe, pour les personnes autistes qui sont non-verbales, c'est-à-dire qui ne parlent pas, ou même pour ceux qui sont verbaux aussi, des pictogrammes. Ce sont de petites images qui représentent toutes sortes de choses, des tâches, des activités ou des étapes. Ces symboles peuvent être photocopiés, imprimés par les parents et mis sur des espèces de bandeaux où ils vont coller les petites images avec des velcros. Donc, ça peut indiquer à la personne non-verbale toutes les activités qui vont se dérouler au courant de la journée, par exemple. S'il y a un imprévu, il y a une espèce de triangle jaune qui va être mis en dehors de la ligne des pictogrammes ou au-dessus de la ligne. La personne autiste, qui est non-verbale, va alors savoir que ce triangle est l'imprévu. « Je montais mes premières conférences en pictogramme », partage Valérie Jessica Laporte. Au lieu d'avoir des notes, je me faisais des pictos avec des couleurs que j'aimais. Elle rapporte également utiliser de petites pinces Mastercraft bleues que l'on peut trouver au Canadian Tire. Je me mets ça sur mes doigts. Ça fait tellement du bien et je deviens toute ramollie. Ça apaise. Mélissa Boulanger elle-même autiste, enseigne une technique de massage pour les autistes, technique MEBP. Elle va dans d'autres pays pour enseigner sa technique. Puis c'est adapté, informe la conférencière. S'attaquer à l'anxiété. Bien avant de s'attaquer aux manifestations extérieures de l'autisme ou à ce qui paraît, gérer l'anxiété et se donner des outils vont aider après à débloquer tout le reste, partage Madame Laporte. On ne peut toutefois pas enlever l'anxiété au complet. Tout le monde a un petit peu de stress, c'est normal. Mais qu'elle prenne toute la place tout le temps, qu'elle soit généralisée, ce n'est pas viable. C'est souvent ça qui va nous bloquer, qui va nous empêcher de progresser. C'est ça le fait que ça m'a pris 8 ans à apprendre à conduire. Il faut comprendre que tout autour de nous est souvent une agression constante et qu'on est inquiet des conséquences. Il faut arrêter l'agression sensorielle qu'il y a tout le temps et les autres types d'agressions qu'il y a autour de la personne. Il y a moyen d'aider vraiment de ce côté-là, d'en enlever une bonne partie. Puis après ça, de permettre à la personne de ne pas avoir toujours à s'inquiéter des conséquences pour toutes sortes d'affaires. Si à chaque fois que je discute avec quelqu'un, je me dis « si je commets une erreur sociale, je vais perdre des privilèges, perdre un ami, perdre l'accès », je vais tout le temps être dans l'inquiétude. On ne peut pas tout le temps être stressé des conséquences. On peut aussi rire de certaines erreurs. Pour elle, les lieux publics ne sont pas adaptés. Il faudrait qu'il n'y ait pas de bruit. On a aussi de la difficulté avec la lumière. Mais on ne peut pas tout transformer l'univers pour le formater à nos besoins. Les conditions feraient en sorte que les autres humains ne seraient pas bien, reconnaît-elle. C'était « Dédramatiser l'autisme », un texte de Gwendoline Le Baumin, paru le 3 avril 2025 dans l'Aurore boréale.
Un plateau télé qui tourne plus vert. Un texte de Sarah Champagne, paru le 31 mars 2025 dans La Presse. L'interprétation de Virginie Commons de l'hymne à la beauté du monde à Zénith n'est pas passée inaperçue en janvier. Sa robe scintillante non plus. Mais un détail a peut-être échappé aux téléspectateurs de l'émission. Sa confection était le fruit d'une corvée de récupération de colis de livraison, de sacs de pain et de lait et d'emballages de cadeaux de Noël effectués par l'équipe de techniciens. Autre secret de coulisses, la longue, très longue robe mauve de Maë Paiement, portée au même rendez-vous télévisuel en 2024. Une partie du tissu utilisé pour fabriquer le costume a été récupérée par une école de théâtre qui s'en est servie pour confectionner des rideaux de scène. La presse a appris ces informations lors de l'événement « On tourne vers », qui rassemblait récemment des acteurs de l'industrie audiovisuelle à la Maison du développement durable au centre-ville de Montréal. Le thème des discussions? L'éco-responsabilité. L'équipe de Zénith, une émission produite par KOTV et diffusée sur ICI Télé, a occupé le haut du pavé en expliquant comment elle est parvenue à implanter un plan vert dans un univers qui carbure aux lumières, aux décors, aux costumes et à tout ce qui consomme de l'énergie. Pour réduire son empreinte écologique, l'équipe qui entoure l'animatrice Véronique Cloutier a retenu les services d'une coordonnatrice verte, Ariel Lapointe-Lamontagne. Grâce au déploiement d'un plan, KOTV a décroché pour la 2e année d'affilée une accréditation d'excellence pour ses actions éco-responsables. Désormais, les collations sont offertes en vrac sur le plateau, a expliqué Mme Lapointe-Lamontagne. Au buffet, qui offre davantage d'options végétariennes, la vaisselle et les ustensiles sont réutilisables. Chacun doit apporter sa tasse à café ou sa bouteille d'eau. Les canettes d'eau pétillante de l'entreprise québécoise Honeybee sont recyclables. L'équipe de production s'est aussi attaquée aux déchets. Elle a acheté des poubelles à trois voies avec un bac destiné au compostage. On utilise des produits nettoyants non toxiques, des savons biodégradables, le papier de toilette est fait de papier recyclé. Et tous ceux qui travaillent dans cette industrie le savent. Une production audiovisuelle consomme des batteries en quantités industrielles. Elles sont dorénavant rechargeables. Deuxième vie au décor. Lors d'un panel, la directrice de production de KOTV, Vanessa Leduc, a expliqué qu'en raison des budgets serrés en télévision, les costumes sont recyclés depuis longtemps. Des efforts sont quintuplés pour réutiliser les décors, souvent contaminés par la peinture et d'autres produits. L'idée du développement durable en studio est apparue il y a environ 2 ans, a-t-elle souligné. Son équipe a pensé à tout, même à réduire les allers-retours des assistants de production en regroupant les commissions, les achats. On a décidé de se lancer à 100 000 à l'heure dans le développement durable, a-t-elle raconté. Nous avons fait le choix d'aller au bout de tout ce qu'on pouvait avec notre plan vert. On a imposé le plan vert à l'équipe en leur présentant un PowerPoint 1 mois avant le début de la production. Sauf pour quelques récalcitrants, les mesures sont bien accueillies. On n'a pas besoin d'achaler nos équipes avec ça. Virage électrique. Francesca Walsing, qui est script, est membre d'un comité plateau vert qui s'active depuis 10 ans au Québec. Selon elle, le milieu est à la traîne par rapport à d'autres provinces du Canada et aux États-Unis où des obligations vertes sévères sont en place. Téléfilm exige maintenant un plan vert aux soumissionnaires. Mais il n'y a pas d'incitatif financier et de subvention pour que les maisons de production élaborent des actions, ni pour calculer leur empreinte carbone. Un processus complexe et coûteux, commente Mme Walsing en entrevue. On voit une certaine progression, ajoute-t-elle, mais nous travaillons en silo. Mme Walsing donne l'exemple des génératrices de plateaux qui roulent à l'essence. L'idéal serait une conversion électrique, tout comme pour les véhicules, mais ces mesures représentent des coûts dans un contexte budgétaire audiovisuel toujours serré. L'industrie tente de conclure des partenariats avec Hydro-Québec et avec la Ville de Montréal pour d'autres mesures, notamment pour la collecte du compost. Selon une étude menée pour Téléfilm par des experts de Greenspark Group, firme stratégique en développement durable, les séries télévisées produisent des taux d'émissions polluantes plus élevés que ceux des longs-métrages au Canada. Un niveau équivalent à la consommation d'énergie de 1669 foyers par année pour les longs-métrages et 61 087 foyers pour les séries télé. Dans ce contexte, le professeur spécialisé en environnement de l'Université de Montréal, Pierre-Paul Audad, a expliqué l'ABC des changements climatiques aux gens de l'industrie audiovisuelle lors d'une présentation. Il a rappelé l'impact des incendies de forêt sur la qualité de l'air. Il a fait ressortir quelques faits saillants du dernier rapport du GIEC, l'organe des Nations Unies chargé d'évaluer les changements climatiques. Il a aussi mis en lumière l'impact de l'augmentation des températures sur les générations futures. Un silence a suivi sa présentation. C'était un plateau télé qui tourne plus vert, un texte de Sarah Champagne, paru le 31 mars 2025 dans La Presse.
Enfants et éducatrices souffrent du manque d'entretien dans les services de garde du Québec. Un texte de Zachary Goudreau, paru le 7 avril 2025 dans Le Devoir. La dégradation de centres de la petite enfance CPE et de garderies privées subventionnées inquiète la direction de plusieurs de ces établissements, des éducatrices et une experte qui appréhendent les effets d'un manque de financement dans l'entretien de ces lieux sur le bien-être de milliers d'enfants qui fréquentent leurs installations vieillissantes. Problèmes de ventilation, tuyauteries défaillantes, planchers en piètre état, toitures à refaire et meubles à remplacer. À l'instar des écoles et des cégeps de la province, de nombreux bâtiments accueillant des services de garde se détériorent au Québec et l'inquiétude est palpable. « On est en crise », lance José Friard, éducatrice au CPE Le Funambule à Saint-Jérôme. En plus d'une clôture extérieure vandalisée à remplacer, le lieu compte plusieurs meubles, de même qu'une salle de bain en mauvais état et une peinture usée sur les murs. Les éducatrices assurent ainsi par elles-mêmes, avec les moyens du bord, l'entretien régulier de leur lieu de travail. Si une éducatrice est en train de réparer quelque chose, les autres filles se relaient pour faire la surveillance auprès des enfants et tout ce que ça implique. « Ça en met plus sur nos épaules », explique Mme Friard. On n'a pas de marge de manœuvre. Ce CPE étant déficitaire, les options sont limitées pour sa directrice générale, Linda Lemay, qui constate que la réparation de sa toiture, qui a perdu quelques tuiles cet hiver lors d'intempéries, représente le chantier le plus urgent sur sa liste de priorités. Est-ce que ça sera des réparations de nouveau ou est-ce qu'il faudra que je change le toit au complet? Je ne sais pas. Mais je m'attends à devoir dépenser au moins 30 000 $, entrevoit Mme Lemay. Par la suite, j'ai certains comptoirs, certaines portes à changer, ajoute-t-elle. Je peux encore attendre, mais ça n'attendra pas 5 ans ou 10 ans. La gestionnaire, qui a quelques décennies d'expérience dans le milieu, est ainsi inquiète de la perspective qu'elle ne soit pas en mesure d'obtenir le financement nécessaire de la part du Québec pour remettre en bon état ses installations. Elle déplore d'ailleurs l'incapacité actuellement des CPE de maintenir de façon préventive leurs installations. Il y avait beaucoup plus de prévention qui se faisait dans le passé, alors que maintenant, on attend que ça brise et on répare. On n'est plus capable de faire de la prévention, le financement n'étant pas suffisant, constate-t-elle. France Bertrand, la directrice générale du CPE Les Copains d'abord, qui compte plusieurs installations en Montérégie, doit pour sa part remplacer les planchers usés de son plus vieux bâtiment. Dans les dernières années, elle a tenté de faire financer ce projet par Québec. En vain. Cette année, ça devient vraiment une urgence de refaire les planchers parce que ce n'est pas hygiénique d'avoir des craques partout au sol, relève Mme Bertrand. Elle devra ainsi piger dans des budgets prévus pour autre chose pour financer ce chantier, ce qui pourrait affecter la qualité des services offerts dans son établissement vieillissant, craint la gestionnaire. On n'a pas de marge de manœuvre. Santé et sécurité. Même si leur modèle de financement est différent, les garderies privées subventionnées déplorent elles aussi que le soutien financier qui leur est accordé par l'État n'ait pas augmenté ces dernières années à un rythme permettant de suivre la hausse rapide des coûts d'entretien de leurs installations. Ce que je crains, c'est que ça va affecter la qualité des locaux dans lesquels on accueille les enfants, appréhende la vice-présidente du conseil d'administration de l'Association des garderies privées du Québec, AGPQ, Mona Lisa Borrega. Les enfants rampent par terre, ils lèchent le plancher. Ils vont expérimenter, rappelle-t-elle. Ainsi, nos locaux doivent être excessivement propres tout le temps et bien entretenus pour que nos enfants ne se blessent pas. Ce qui est difficile à faire quand le soutien financier de l'État ne suit pas le rythme de croissance des coûts d'entretien, précise-t-elle. Le résultat, ce sera une dégradation de nos garderies, lance le président du conseil d'administration de l'AGPQ, Samir Alamad. Une situation qui pourrait nuire au bien-être de nombreux enfants, craint Nathalie Bigra, professeure titulaire à l'Université du Québec à Montréal et directrice scientifique de l'équipe de recherche qualité des contextes éducatifs de la petite enfance. Ce sont des principes de base de santé et sécurité qui sont affectés quand on parle de dégradation des lieux, rappelle-t-elle. Tout ça a des effets sur la santé physique des enfants, ce qui peut nuire aussi à leur développement à d'autres niveaux, ajoute l'experte. À Québec, Stéphanie Germain, directrice générale du CPE Jardin Bleu, qui compte 4 installations dans le quartier Limoilou, s'inquiète d'ailleurs des répercussions possibles que pourrait avoir le manque de financement gouvernemental auquel il est confronté sur les enfants qui fréquentent ces bâtiments vieillissants. Je ne peux pas le confirmer ni l'infirmer sans l'ombre d'un doute, mais j'ai peut-être un peu plus d'absences qui sont dues à des infections respiratoires de par le fait qu'on a de l'amiante dans nos murs et que nos systèmes de ventilation datent de la construction, confie Mme Germain. Mais je n'ai aucune étude scientifique qui peut le prouver. Joint par Le Devoir, le cabinet de la ministre de la Famille, Suzanne Roy, affirme que les investissements réels destinés au maintien des actifs dans les services de garde éducatifs à l'enfance sont en hausse constante depuis quelques années, bien qu'une baisse soit prévue dans les prochaines années. La ministre invite d'ailleurs les CPE à utiliser leurs surplus accumulés pour financer l'entretien de leurs installations, tout en rappelant que pour ceux qui sont en difficulté financière, des programmes sont disponibles pour effectuer les travaux de rénovation qui s'avèrent nécessaires. La sécurité et la santé des enfants demeurent une priorité, assure le cabinet. Les actions de notre gouvernement vont toujours aller en ce sens. C'était « Enfants et éducatrices souffrent du manque d'entretien dans les services de garde du Québec », un texte de Zachary Goudreau paru le 7 avril 2025 dans Le Devoir.
Changer la game, la journée de visibilité lesbienne 2025. Un texte de Caroline Lavigne paru le 24 mars 2025 dans le magazine Fugue. Chaque 26 avril, la journée de visibilité lesbienne, JVL, offre une tribune essentielle pour mettre en lumière les réalités des femmes et des personnes de la communauté lesbo-queer. Cette journée ne se limite pas seulement à une célébration. Elle constitue un puissant rappel des défis auxquels ces personnes font face, tout en reconnaissant leurs contributions souvent passées sous silence au sein des manifestations LGBTQIA2S+, locales et internationales. Un regard critique sur l'invisibilisation dans le sport. Pour sa 43e année d'histoire, cette JVL est célébrée sous le thème « Changer la game » et se penche sur une sphère où les personnes lesbo-queer rencontrent encore trop d'obstacles, le sport. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon une étude menée par Guylaine Demers en 2017, 67% des athlètes LGBTQ+, ont subi au moins un épisode d'homophobie au fil de leur carrière sportive. Cette réalité est confirmée par Statistique Canada, qui rapporte qu'en 2024, 42% des Canadiens gays et des Canadiennes lesbiennes ont déclaré avoir été victimes ou témoins de discrimination lors d'activités sportives, soit plus du double des personnes hétérosexuelles, 17%. L'absence de visibilité des athlètes lesbo-queer dans les médias accentue ce sentiment d'exclusion. Trop souvent, ces athlètes sont réduites à des stéréotypes ou, pire encore, passées sous silence. Cette invisibilisation a des conséquences bien réelles. Elle empêche les jeunes personnes lesbo-queer de se projeter dans le milieu sportif et les dissuade parfois de s'engager pleinement ou de faire leur coming out par peur de la stigmatisation. Changer la game, une campagne pour briser les barrières. Face à ce constat, le Réseau des lesbiennes du Québec, RLQ, a choisi de frapper fort avec sa campagne « Changer la game ». L'objectif? Susciter des changements concrets pour une meilleure représentation des personnes lesbo-queer dans le sport. Cette campagne vise à dénoncer les injustices tout en mettant de l'avant des modèles inspirants pour les générations futures. En 2016, quand le skateboard est entré dans la famille olympique et que les abonnés Danny Guglia se sont multipliés par centaines sur les réseaux sociaux, elle a réalisé qu'elle pouvait se servir de son influence pour pousser certaines choses qui lui tiennent à cœur. Cette année, l'Olympienne, elle représentait le Canada à Tokyo, qui incarne cette volonté de changement, sera donc porte-parole de la JVL 2025. Ses publications Instagram sont d'ailleurs déjà remplies des couleurs de l'arc-en-ciel depuis un bon bout déjà. On y voit participer au défilé de la fierté. « C'est rare que je reçoive de la haine », confiait-elle en entrevue à la presse en 2023, « mais quand ça arrive, c'est toujours des trucs homophobes et transphobes. » Annie Guglia résume l'enjeu et la volonté de changement en une phrase percutante. « C'est difficile d'être ce que tu ne peux pas voir, mais ce n'est pas impossible. » Son parcours illustre l'importance cruciale de la visibilité. En montrant des athlètes qui osent être elles-mêmes, la campagne espère créer un effet boule de neige, incitant d'autres à revendiquer leur place sur le terrain, dans les vestiaires et dans l'espace médiatique. Je considère mon rôle dans cette communauté comme celui d'un modèle positif, a déclaré Guglia à la presse, dans la même entrevue. C'est étrange de parler comme ça de soi-même, mais dans l'ensemble, j'essaie de me rendre visible chaque fois que c'est possible et d'utiliser les plateformes qui me sont offertes pour montrer que c'est simplement normal. Je ne comprends pas ceux qui propagent la haine envers les autres en se basant sur quelque chose qui ne les concerne pas ou ne leur enlève rien. Pourquoi la visibilité est-elle essentielle? Rendre visibles les personnes lesbo-queer dans le sport, c'est offrir aux nouvelles générations des modèles auxquels s'identifier. C'est aussi lutter contre les préjugés en démontrant que l'orientation sexuelle ou l'identité de genre ne définit ni les compétences ni la passion d'une athlète. En 2025, la JVL et la campagne Changer la game nous rappellent que chaque geste compte. En brisant le silence et en mettant en lumière les récits de ces athlètes, on contribue à un monde sportif plus inclusif, plus juste et plus accueillant pour toutes et tous. Un événement phare au cœur de Montréal. Le point culminant de cette campagne sera l'événement du 26 avril au 8 Queen, dans le Vieux-Montréal. Cette journée proposera un espace d'échange et de célébration où les voix lesbo-queer pourront s'exprimer librement et avec fierté. Au programme, discussions inspirantes, remises de prix et ateliers d'athlètes engagés. Info, page web, visibilitélesbienne.ca. C'était Changer la game, la journée de visibilité lesbienne 2025. Un texte de Caroline Lavigne, paru le 24 mars 2025 dans le magazine Fugue.